Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui nous parle aujourd'hui. Je veux vraiment me remettre entre tes mains, Seigneur, parce que ce n'est pas moi qui vais parler, Seigneur. Je sais si peu de choses, Seigneur, et j'ai vraiment besoin que ce soit toi qui parle au cœur de chacun, Seigneur. Que chacun ici puisse recevoir ce que tu as pour eux, Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est que un seul mot peut avoir tellement d'effets différents dans le cœur de chacun. Et Seigneur, ça c'est l'œuvre de ton esprit. Et je te prie pour que chacun ici soit vraiment rempli de ton esprit, rempli de ce que tu as pour eux aujourd'hui, pour moi aussi, Seigneur. Vraiment, je me remets entre tes mains, Seigneur. Je nous remets chacun en tant que membre, mais aussi en tant qu'Église, Seigneur, afin que nous puissions te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est toujours un challenge de prêcher, parce que bah, y a une responsabilité, et puis c'est jamais évident au final. Moi je me dis c'est quand même, enfin pourtant je vous connais, je me sens quand même en sécurité, mais je dis, quand les gens prêchent devant des centaines de personnes, je sais pas, moi je trouve ça c'est quand même impressionnant. Il y a une responsabilité, on peut dire, enfin on veut pas dire de bêtises quoi, mais voilà. Donc du coup je me présente devant vous très humblement, en espérant pouvoir vraiment vous partager ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour vous. Je vais essayer de parler plus lentement aussi, comme on dit souvent que je parle vite, trop vite, et que j'ai tendance à manger mes mots, donc je vais faire des efforts. Ce que j'avais à cœur pour vous, pour nous, c'est bien sûr, souvent c'est à la période de la rentrée que j'ai l'occasion de vous partager un message. Je voulais vraiment quelque chose qui puisse vous encourager. Vous savez, moi je suis plus dans l'exhortation et l'édification, hein, j'ai pas un doctorat. Donc c'est vraiment ce que je voulais faire ce matin, et je crois que j'ai un thème. Alors, il me semble que je l'avais déjà partagé, mais bon, c'est un thème qui peut se partager tout le temps, c'est l'amour de Dieu. Et il est infini de toute manière, il est incommensurable, il est, voilà, il n'a pas de fin, et je pense qu'on a besoin de se le rappeler toujours. Donc bon, désolée si je me répète, mais bon, c'est pas grave, c'est la parole de Dieu, donc elle a toujours de l'effet. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça. Et le verset qui me venait à cœur, c'est 1 Corinthiens 13, 13. En somme, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Alors c'est vrai que c'est un verset qui est souvent pris au mariage. Mais bon voilà, j'avais à cœur de vous le partager pour cette rentrée. Le verset suivant d'ailleurs, il est 1 Corinthiens 14, verset 1, commence par « Ainsi recherchez avant tout l'amour ». Donc voilà. L'amour. Pas l'amour cheap, j'ai envie de dire. Pas l'amour qu'on pourrait vendre aujourd'hui qui est très limité. Mais vraiment l'amour de Dieu. L'amour qui est profond, l'amour qui dépasse l'imagination. Avec ces versets-là, il y en a un autre qui m'est venu à l'esprit. En fait, beaucoup en préparant ce partage, j'avais des versets qui me venaient. Donc parfois, je vais vous donner, parfois sans référence, mais vous les connaissez. Et celui-ci, c'était Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et vraiment, c'était vraiment ce que j'avais à cœur de me dire pour cette rentrée, pour cette année. Recommençons en se posant les bonnes questions, en reprenant les bonnes bases. Rechercher l'amour, de le vivre, de s'aimer les uns les autres, et de réapprendre à aimer, je veux dire, comme Xavier le dit souvent quand il vient, de s'aimer intentionnellement, de faire les choses de manière intentionnelle, pas juste comme ça. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, s'aimer du vrai amour, c'est pas quelque chose qui est simple. Parce que aimer quand les gens nous aiment, c'est facile, ou à peu près. Mais aimer quand les gens ne nous aiment pas, quand ils nous font des crasses, quand ils nous trahissent, quand ils sont juste désagréables, bah ça c'est beaucoup plus dur. Et pourtant c'est cet amour-là que Dieu nous demande de pratiquer. Et même aimer les gens qui nous aiment, il y a bien des fois où les gens qui nous aiment, je sais pas, les maris et femmes, les parents, les enfants, les frères et sœurs, on connaît tout ça, hein. Il y a des gens qu'on aime beaucoup, mais des fois, mais qu'est-ce qui nous énerve ? Et pourtant, on est quand même appelé à les aimer au moment où on n'a pas envie. Et voilà, j'avais envie de nous réencourager à chercher cet amour qui vient de Dieu. Moi, j'ai toujours été surprise. C'est quelque chose vers lequel je tends, que j'essaye d'avoir, entre guillemets, c'est-à-dire que Dieu puisse m'accorder cet amour pour les autres, parce que je trouve que j'en ai clairement pas assez. Et quand je vois des gens, le dernier en date, c'est par exemple David Alonso. Et moi, je trouve incroyable sa manière d'aimer les gens. Il les connaît pas, hein, il connaît pas les gens, mais on sent quand il parle d'eux ou d'une situation, il aime les gens. Il y en a d'autres, hein, mais c'est le dernier que j'ai en date. Je trouve ça merveilleux et je me dis, mais Seigneur, moi où il est cet amour-là, c'est-à-dire parce qu'il y a des fois, il y a des gens, je les connais pas, je les vois de loin et je me dis, non, j'ai pas envie de, non, enfin voilà, ils sont bien là-bas, moi je suis bien là. Et pourtant, voilà, Dieu nous demande de les aimer. Alors, encore une fois, il nous demande pas d'être meilleurs amis avec tout le monde, mais ça c'est quelque chose de différent, mais d'aimer, de se soucier de l'autre, de se préoccuper de ce qui peut lui arriver, de ce que je peux dire qui pourrait l'affecter. Et c'est cet amour-là que Dieu nous demande d'avoir. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je prie, parce que honnêtement, je ne l'ai pas. Hein. Mon amour humain, c'est clair qu'il est très limité. Et l'amour que Dieu verse dans moi pour les autres, j'ai encore besoin d'ouvrir beaucoup plus les portes. Et vraiment, ça, moi, je trouve ça tellement beau quand les gens, ils aiment même sans connaître, sans chercher à voir en retour. Et c'est ce que Christ nous montre. Et aimer, parfois, ça pourrait sembler abstrait. Mais pourtant, ça se manifeste de façon si concrète. Il y a plein de petites choses. Vous le savez, enfin, vous l'avez déjà entendu, ces petites phrases qui disent « Ouais, c'est dans les petites choses, c'est la façon de faire, c'est pas un gros cadeau qui compte, c'est le temps qu'on aurait pu mettre. » Voilà, il y a plein de choses de manière concrète. Et j'avais envie de vous lire ça. Alors, c'est là où je l'ai peut-être déjà lu, mais c'est pas grave, je le vous relis. C'est dans un livre qui... Un livre de... Enfin, pas de théologie, mais qui parle des bases du disciple. Discipula, des disciples, qui parle d'un Corinthiens 13, et un Corinthiens 13, Paul décrit l'amour que Jésus a manifesté dans sa vie sur terre, et comme nous aussi on devrait le manifester. Et le thème dominant, c'est que l'amour pense aux autres plutôt qu'à soi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est inversé aujourd'hui dans notre monde, où on est beaucoup centré sur soi, sur moi, mon bien-être, mon confort. Après moi, le déluge. On est tous coupables, hein, je ne pointe pas le doigt. Hein. Moi, c'est pareil, on a toujours tendance à se mettre soi en premier. Et pourtant, l'amour pense aux autres plutôt qu'à soi. L'amour est patient. Ça veut aussi dire qu'il n'est pas susceptible. Ça, moi, c'était une de mes grandes faiblesses. Ça en est encore une petite aujourd'hui. Mais c'est vrai que la susceptibilité, des fois, on ne le maîtrise pas. Et c'est là qu'on peut demander à Dieu de nous aider. Parce que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Donc il se trouve toujours le moyen d'accomplir des petits gestes qui disent « je pense à toi ». Il n'est pas envieux. Il n'est pas jaloux d'autrui. Celui qui aime ne désire pas ressembler à quelqu'un d'autre et ne convoite pas ce qu'il possède. Et là, c'est important aussi de pouvoir faire la différence entre être heureux et se réjouir pour les autres de ce qu'ils peuvent avoir et tomber dans la jalousie et avoir envie d'eux et tomber dans le négatif et être, il y a un mot que je cherche, je ne trouve plus, l'amertume, voilà, et tomber dans l'amertume. Parce que je pense qu'il faut savoir se réjouir de ce que chacun a. On n'a pas tous, c'est vrai qu'on a, d'une certaine manière, on n'est pas tous égaux dans la vie concrète, on n'a pas tous les mêmes métiers, on n'a pas tous le même salaire, on n'a pas tous la même santé. Mais pourtant, dans chacun de ces cas, peu importe dans lequel nous sommes, Dieu nous demande de nous réjouir pour l'autre. Et on peut se dire, bah tiens, peut-être que si je travaille bien à l'école, que j'écoute bien, je pourrais avoir un bon métier qui me plaît, qui me réjouit. Et après, c'est pas que l'argent qui nous drive non plus. Hein. Faut être heureux dans ce qu'on fait. Je pourrais laisser la place à Olivier s'il était là. C'est important de pouvoir vraiment être heureux dans son travail. Parce que ceux qui gagnent beaucoup, mais qui vont la boule au ventre au boulot tous les jours, bah, c'est pas drôle. Hein. Vaut mieux gagner un peu moins et être heureux. J'ai une conversation avec certains de mes collègues par rapport à ça, justement, et ils sont pas chrétiens, hein, mais ils font leur choix en fonction de ça. Parce que bon, certes, ils veulent bien gagner leur vie, mais ils disent, moi, je vais pouvoir aller au travail, je vais pouvoir être heureux, avoir un bon environnement de travail. Et tant pis si je gagne un peu moins. Voilà, petite parenthèse. Donc l'amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas, il ne fanfaronne pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il reconnaît qu'il n'a rien, qu'il n'ait reçu, et il ne peut rien sans la puissance qui lui a été donnée. Et ça, je pense que c'est un point aussi qui est très dur. On a vite fait de s'accaparer les choses et de dire que c'est grâce à moi, c'est moi. Mais on oublie toujours de rendre gloire à Dieu. Non, je n'oublie pas toujours, mais souvent, on oublie de rendre gloire à Dieu pour ce qu'on a. Et l'amour, c'est aussi ça, c'est ce souvenir que, on l'a dit ce matin, hein, tout ce que j'ai, tout me vient de Dieu. Et pourtant, notre tête, elle nous dit, oui, mais bon, je sais pas, si j'ai bien travaillé à l'école, si j'ai bien étudié, si j'ai bien bossé, si j'ai respecté mes patrons, c'est moi quand même. Notre chair, notre être humain, enfin, on a envie de dire ça, hein, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive. Et pourtant, c'est se dire, bah non, tout ça, au final, ça vient de Dieu. Et du coup, je veux lui rendre gloire. L'amour, c'est ça aussi. L'amour n'est pas violent. Il ne cherche point son intérêt. Cela signifie que l'amour ne cherche pas à s'imposer, qu'il ne recherche pas le pouvoir, la renommée, la richesse ou le statut social. Il n'est pas égoïste. Ça paraît logique de dire que l'amour n'est pas égoïste. Et pourtant, quand on regarde un peu autour de soi, on le voit. Parce que parfois les gens disent « oui, on s'aime », mais à partir du moment où ça va plus comme eux ils veulent, ah ben là on s'aime plus. Bon, c'est ça l'amour ? Non. Et ça, c'est... Il faut s'en souvenir. Pourquoi j'aime ? Comment j'aime ? L'amour n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas. Il ne sort pas facilement de ses gonds. Alors là, selon les caractères, c'est plus ou moins facile. Et encore, on dit ça, mais par exemple, moi, je suis plutôt à tendance à... Je rentre à l'intérieur, donc on ne voit pas. Mais ça n'empêche que je peux m'irriter. Il y en a d'autres qui explosent, ça se voit plus vite. Mais on a tous à travailler sur ça. Mais encore une fois, pas à la force des poignets. Pas en disant, je peux, je vais y arriver, je vais rien dire, je vais aimer. Non. C'est en se mettant à genoux, en revenant à Dieu. En disant, Seigneur, voilà. Là, clairement, je suis très irritée, mais pourtant... L'amour, ton amour me dit d'aimer, ton amour me dit de pardonner, ton amour me dit de ne pas être égoïste, et j'ai besoin de toi. Et je reviens aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que partageait Hélène. Dieu peut transformer des vies. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est chrétien. C'est que c'est pas quelque chose de statique, c'est une aventure, et on se laisse transformer, on évolue dans la vie. C'est pas parce qu'on a atteint l'âge de développement psychologique que ça y est, c'est fini, on va continuer comme ça. Nous, on a l'espoir qu'on peut changer, mais encore une fois, pas par nos forces. Mais vraiment avec l'aide de Dieu. Mais c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'on a quand même l'impression que des fois, c'est bon, on est un peu arrivé, c'est bon, on n'est pas trop mal et tout. Et en même temps, voilà, c'est beau parce que c'est pas nous, mais en même temps, c'est toujours du travail. Toujours de se dire qu'on n'est pas arrivé, toujours se dire qu'on va continuer. Et en même temps, ça doit être quelque chose qui soit joyeux, c'est pas quelque chose d'accablant. En même temps, c'est simple, c'est complexe pour notre esprit humain. Il est vachement... Il ne soupçonne pas le mal. Contrairement aux amis de Job, il n'explique pas la souffrance du chrétien par un péché commis dans sa vie. Cela m'a fait réfléchir. Parce que souvent, on a envie de trouver des explications. On veut trouver que ça ait du sens à notre point de vue. Parce que pour Dieu, tout a du sens. Sauf qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, toujours. Donc pour nous, ça ne fait pas de sens et on va trouver quelque chose ailleurs. Et je pense que c'est important, ça. De pas expliquer la souffrance du chrétien par un péché commis dans sa vie. Ah bah, bon, je pense pas qu'on le fasse trop, mais ça peut peut-être nous arriver dans nos vies. Au fond de la tête. On le dit pas, mais peut-être qu'on le pense. Et faisons attention à ça. Parce que c'est vrai que c'est pas parce que il est malade parce que il a fait tel ou tel péché. Il a perdu son boulot, c'est normal. C'est parce qu'il a pas donné sa dîme. Voilà. Dieu n'est pas, ma mère dit toujours, Dieu n'est pas au coin du bois en train de nous attendre pour nous taper dessus dès qu'on a fait une erreur. Non, Dieu est amour, et justement, il est bon. Et nous ne cherchons pas à trouver des explications parfois. Aimer l'autre dans sa souffrance, c'est simplement, on le dit dans la Bible, pleurer avec lui. Notre être a envie de trouver la solution, pourquoi, de lui donner une explication, mais non, il n'y en a pas. Parfois, c'est juste accepter, on ne comprend pas. Mais on aime. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il n'approuve jamais les traitements injustes infligés à d'autres, même si ceux-ci semblent mérités. Ça rejoint un petit peu l'autre. Mais j'ai envie de dire, il n'approuve jamais les traitements injustes infligés à d'autres, et parfois j'ai envie de dire à soi-même aussi. Dans la partie de aimer, il y a aimer les autres, mais il y a aussi aimer s'aimer soi-même. Et des fois on peut s'en vouloir pour des choses, on refuse de se pardonner nous-mêmes pour des choses, on s'en veut parce qu'on a raté telle opportunité ou telle chose, mais ça non plus, c'est pas l'amour. On peut reconnaître nos erreurs, on peut reconnaître nos torts, et c'est important de se remettre en question. Mais il ne faut pas se flageller. L'amour, il ne comptabilise pas les torts subis. Il se réjouit de la vérité. Chaque fois que la vérité triomphe, il s'en réjouit, quel que soit le vainqueur. Alors j'aime bien cette petite phrase en plus, là. On dit toujours que la vérité, elle est importante. On sait qu'elle est, enfin, elle est vitale, on veut toujours. C'est bon, là, je garde mes nièces pendant tout le week-end parce que leurs parents ne sont pas là. Et la vérité, elle est importante jusqu'à ce que ça me convienne pas trop. C'était assez marrant à voir, mais on est pareil. Hein. Je parle des enfants là, mais en tant qu'adulte, on le cache juste un petit peu mieux. Et c'est vrai que la vérité. Donc on sait que la vérité, c'est aussi Jésus. Et là, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de demi-vérité avec Jésus. Et il faut s'en réjouir, quel que soit le vainqueur, que ça aille dans notre sens ou pas. L'amour supporte tout. Il peut s'agir des fardeaux d'autrui ou des siens. L'amour tient le coup dans les tribulations, les persécutions et les tristesses. Il n'envisage pas d'abandonner la partie. Voilà, voilà. Bonne soirée. L'amour qui supporte tout. Bah là, je pense qu'on a tous beaucoup de chemin à faire. En tout cas, moi, je suis la première dans la file. Hein. Dès qu'il y a un truc qui devient un petit peu difficile, j'ai pas envie de dire Seigneur, tu m'aimes plus, mais c'est Seigneur, qu'est-ce qui se passe quoi. Moi, je comprends plus. Et pourtant, l'amour tient le coup. Il croit tout. Il fait confiance aussi longtemps que les preuves ne viennent pas le démentir. Cela ne signifie pas que l'amour soit crédule ou naïf. Il espère tout. Il s'attend à une issue favorable malgré les difficultés et les découragements présents. L'espérance. Croire et espérer. Ça fait beaucoup partie de ce que Dieu nous demande. Mais il nous le donne, la solution qui va avec. C'est lui qui nous fournit cet amour. C'est lui qui nous fournit cette espérance. Et l'amour ne périt jamais. Son pouvoir et son efficacité ne faiblissent jamais. L'amour finit toujours par triompher. Voilà, ça c'était un détail du chapitre, enfin de ces versets sur l'amour que je voulais vous partager. Et bon, j'ai pas tout approfondi. Je pense que vous-même, vous avez des exemples qui vous sont venus. Mais voilà, ce sont des choses qui sont concrètes. L'amour, c'est aussi donner sa vie pour ses amis. Alors, on a rarement l'occasion de vraiment mourir pour quelqu'un. En tout cas dans notre société, c'est clair. Mais par contre, mourir, c'est mourir à ses choix, parfois. Et ça, on a beaucoup plus l'occasion de le vivre. L'amour, c'est préférer l'autre. Et ça, c'est des choix qu'on a à faire tous les jours, je pense. Qu'on soit, peu importe dans quelle situation on est, à partir du moment où on est autour des autres, c'est quelque chose qu'on vit toujours. J'ai bien aimé cette phrase que j'ai lue aussi. « L'amour est moins une affaire de sentiment que de volonté. » Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Les sentiments, ça tient un moment, mais comme j'ai dit, dès qu'il y a une contrariété, dès que ça appuie dans notre sens, dès que ça devient un peu difficile, on a tendance à oublier qu'on aime l'autre. Et c'est là que la volonté rentre en jeu. La Bible dit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Donc, encore une fois, on s'en remet à Dieu. Dieu nous donne la volonté d'aimer. Donc, il nous donne et la volonté et l'amour pour l'autre. Donc, encore une fois, c'est pas à nous la force des poignets, mais plutôt la force des genoux. On se met à genoux, on prie. On demande à Dieu de nous aider pour ça. Parce que c'est pas une question de sentiments. Les sentiments, souvent, ils sont là et c'est bien. Je suis content, j'aime ma famille, j'aime mes amis. Et c'est bien. Mais voilà, il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que si vous demandez à tous les gens qui sont mariés dans la salle, Ils savent très bien qu'au bout d'un moment, les sentiments sont peut-être pas forcément là, mais on a fait une promesse, on a choisi d'aimer, la volonté est là, on continue ensemble. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est important et c'est valable dans toutes nos relations, cette volonté d'aimer. Et l'amour que nous propose Dieu, bien sûr, transcende le comportement naturel. Elle va au-delà de ce que nous, on peut faire. Et l'autre chose que je voulais partager, donc qui va aussi bien sûr avec l'amour, et on a dit que ces derniers temps, il fallait qu'on soit plutôt sur des messages qui soient christocentrés. Donc je me dis, ok, bon voilà, j'avais à cœur de parler de l'amour de Dieu. C'est une chose qui est capitale, l'amour de Dieu dans nos vies, pour nous, pour les autres, pour Dieu. Mais voilà, Christ au centre, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Je mets une chaise au milieu de ma chambre et je tourne autour et j'imagine que Christ est au centre ? Ouais, bon, pourquoi pas ? Ouais, non, ça c'est mon imagination d'enfant qui est encore là. Et du coup, bah là c'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des versets qui me sont venus vraiment à l'esprit. Donc je les ai notés et je vous les partage. Pour moi, Christ au centre, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Christ au centre, c'est mourir à soi-même. Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et voilà, j'avais ces différents versets qui me sont venus assez spontanément. Je me dis, voilà, bah ça fait partie de ça, Christ au centre. Mais c'est là que ça devient super dur. Parce que dire « Christ est au centre de ma vie, j'ai Christ au centre », oui, ok, mais dans le concret, ça veut dire quoi ? Dans les versets qu'on a dit, c'est « abandonner ma volonté ». Aïe, aïe, aïe. Mes envies. Abandonner moi, moi, moi. Moi, ce que je veux. Et c'est ça, être chrétien au final. C'est pas juste lever la main à un appel et on prie et voilà. C'est dans le quotidien, c'est cet abandon à Dieu. On le dit, hein, c'est aussi, je l'ai pas marqué, mais c'est qu'on m'a dit porter sa croix. Et vraiment, c'est un rappel, hein, pour moi en premier, pour vous, que Christ au centre, c'est vraiment lui qui prend les décisions, c'est lui qui nous conduit. Et c'est plus ce que moi j'ai envie de faire. Mais quelque part, c'est ce que j'ai envie de faire, parce que si j'ai envie de suivre Dieu, au final, ça se rejoint. Mais dans l'immédiat, c'est sûr que peut-être qu'à ce moment-là, j'ai plutôt envie de faire ça, mais Dieu me dit non, tu vas faire ça. Moi, j'ai envie d'aller voir mes amis, mais Dieu me demande d'aller voir quelqu'un qui... Un de mes autres amis qui est malade à ce moment-là. Enfin, voilà, c'est un exemple bidon, mais juste pour dire... Désolée, j'avais pas un pertinent qui me vient, mais juste pour dire que voilà, vous savez très bien ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est moi, j'ai envie de faire quelque chose, mais peut-être Dieu va me montrer autre chose. Et c'est là où on voit si Christ est au centre. Est-ce que je vais abandonner ma première idée, ce que moi, sur le moment, j'ai envie de faire, et je vais le suivre. J'aime bien, je revoyais, vous l'avez peut-être vu, les dessins de Odercé, un chrétien qui fait des BD, et qui illustre donc des choses amusantes de la vie chrétienne. Et je revoyais cette image où vous voyez un homme qui ouvre une porte, et qui dit « Oui, bienvenue Jésus dans ma vie ». Et là, vous voyez l'intérieur de sa maison et toutes les portes, c'est marqué « Privé, ne pas rentrer », il y a un truc de police, limite, il ne faut pas passer. Donc en gros, parfois, on est là, on invite Dieu dans notre vie, mais au final, « Ah oui, mais là, tu ne peux pas aller 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 là voilà. ». On en est tous un peu là, il y a toujours des choses où on sait bien que Dieu n'est pas encore partout dans nos vies, mais le but, c'est qu'il soit vraiment au centre et qu'il ait accès à tout dans nos vies. Et voilà, ça c'est dur, abandonner ma volonté, mes envies, mon moi, qui est tellement élevé aujourd'hui. C'est tellement... je veux dire, déjà de base, je pense que l'être humain est centré sur soi, mais on n'est pas aidé aujourd'hui avec tout qui est centré sur nous, sur notre confort, sur notre plaisir. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir plaisir, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'éclater, avoir des bons moments, hein, mais c'est juste que ce n'est pas le premier, en fait. C'est juste que ce n'est pas, mon moi qu'il faut mettre en premier. Donc voilà, comme je disais, ça c'est des choses qu'on vit avec les autres, la famille, les amis, soi-même même. Parce que des fois on a un conflit intérieur entre ce qui est bien, on sait ce qui est bien, et ce que je veux faire. Des fois du coup, voilà, le combat il est même avec moi et moi-même. Et ça, c'est un peu plus bizarre, Mais c'est vrai. On sait très bien, vraiment, moi, un truc. Je sais très bien que faire du sport, c'est bien. Et en plus, on est tellement bien quand on a fait du sport. Mais il y a une partie de moi qui a vraiment pas envie et qui a la flemme. Et pourtant, voilà, les deux sont bons dans le sens où, ouais, bah, je me repose, ça me fait du bien. Mais en même temps, le sport aussi, ça me ferait du bien. Voilà, c'est un exemple bado. Mais il y a plein de choses dans lesquelles, comme ça, on sait ce qui est bien, ce qui va nous coûter, ce qui va être difficile, ce qui va faire peut-être un peu mal sur le coup. Mais après, les récompenses sont bien supérieures. Et voilà, il y a plein de choses dans nos vies comme ça où voilà, il n'y a pas seulement avec les autres, mais avec soi-même. Donc Dieu nous demande, nous propose en tout cas une fois qu'on l'a choisi. Il nous dit, ok, donc maintenant c'est ma volonté que tu vas suivre. Mais en même temps, quand il nous dit ça, on devrait être complètement rassurés parce qu'on abandonne notre volonté, notre vie, à un autre qui est si parfait, qui est bon, qui sait tout, qui connaît tout. Et pourtant, même là, c'est dur. C'est pour vous dire que je trouve qu'on a quand même pas mal d'orgueil. Hein. Et ce qui est marrant, c'est pareil, j'ai lu ça aussi, hein, j'ai pas inventé grand-chose. Hein. J'ai pris dans la Bible ou j'ai pris des, des choses qui sont reconnues. Mais voilà, ce qu'il disait, c'est qu'on n'est jamais plus libre que lorsqu'on est esclave de Christ. Paul explique ça dans Romains, notamment, dans les livres de Romains. Et ça, c'est un truc, encore une fois, je pense qu'intellectuellement, je ne crois pas qu'on arrive à le capter, parce qu'on parlait d'esclave tout à l'heure. Comment est-ce que tu peux être libre et esclave ? Même si c'est au Dieu Tout-Puissant, même si c'est un Dieu qui est bon, je pense que, je ne sais pas, mais là, l'intelligence humaine, je ne pense pas qu'on puisse le comprendre. Mais notre esprit qui a été renouvelé, qui a été ressuscité avec Christ, lui, il peut le comprendre. Et c'est vraiment ça, que quand on est esclave de Christ, donc Christ au centre, on est parfaitement libre. Et on est parfaitement soi. Je pense que c'est un thème qu'on voit souvent avec les jeunes aussi. C'est que parfois, on a peur de dire, bah oui, mais si on est tous comme Christ, on va être tous pareils. Donc en fait, c'est une ligne de repos, on est tous les mêmes. Mais non, c'est ça qui dépasse notre imagination, notre compréhension. C'est qu'on est tous individuellement uniques. Et pourtant, on est comme Christ. Et voilà, ça. Je crois que c'est quelque chose où on croit, on accepte et on le comprend dans l'esprit. Mais voilà, je le redis, on n'est jamais plus libre que lorsqu'on est esclave de Christ. Donc je nous invite à rentrer dans ce bon esclavage de Christ. En nous soumettant à lui, à sa volonté. Et c'est là aussi, quand on se soumet à lui, que les priorités dans nos vies se mettent en place. Parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus ce que moi j'ai envie, ce que je veux faire. Mais en même temps, si j'ai envie de faire la volonté de Dieu, ben au final, ça va répondre à mes envies de faire sa volonté. Donc, mine de rien, on s'y retrouve quand même. Et voilà, ça c'est... Et du coup, on retrouve des priorités que Dieu veut dans nos vies. Et c'est des bonnes priorités pour nous. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de recette. On ne peut pas dire, c'est ça, puis ensuite c'est ça, et c'est ça les priorités dans ta vie. Parce que justement, Dieu est tellement bon qu'il a des priorités pour chacun d'entre nous dans chacune des périodes de nos vies. Et alors bien sûr, il y a des priorités qui ne changent pas. Dieu premier dans votre vie, ok. Mais après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, il y a des périodes, je pense aux mamans qui ont des petits-enfants. Bah, une partie de leur priorité, ça ne va plus forcément être, je ne sais pas, d'aller faire le ménage à l'église, même si c'est bien, mais ça va peut-être être se concentrer sur ses enfants. Enfin, voilà, je ne veux pas aller trop dans les détails parce que je ne veux pas... réduire le truc, mais c'est juste pour dire que voilà, Dieu est bon et il y a des périodes dans nos vies qui sont différentes. Quand on est étudiant, quand on a problèmes financiers, quand on est malade, quand on est bien portant. Enfin, voilà, et on peut pas faire de règles en disant voilà, ce sera ça tes priorités dans ta vie jusqu'au bout de ta vie et pour tout le monde c'est la même chose. Et c'est là encore une fois qu'on revient avec la relation avec Christ au centre parce qu'on est à son écoute. Et si on est esclave de Christ, c'est lui qui nous emmène là où il veut. Qui nous fait faire ce qu'il veut. Et ce qui est génial, c'est que ces choses-là sont bonnes pour nous. Et voilà, je vais vous encourager à vous remémorer ça. Et ne pas tomber dans la culpabilité, parce que vous êtes dans une période de vie différente. Ne pas vous sentir coupable, parce que vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous voulez avec Dieu ou autre chose. Mais vraiment, ne restez dans la présence de Dieu. Et pour... pour faire ça, entre autres, il y a une chose dont on a besoin, c'est la sagesse. Mais celle qui vient d'en haut, celle-ci est nécessaire. Parce que la sagesse humaine n'est pas celle de Dieu. Je ne dis pas que tout ce qu'on dit en tant qu'être humain n'est pas sage, mais en tout cas, elle n'est pas comparable à la sagesse de Dieu. Et encore une fois, j'ai noté un truc intéressant en grec, je ne sais pas le mot, mais le concept de sagesse, c'est la connaissance. C'est une accumulation d'informations de valeur. C'est vrai, oui, Sophia, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, c'est bien, en soi, c'est pas mauvais. Mais par contre, en hébreu, c'est très concret et pratique. Ce n'est pas dans la connaissance, mais dans l'action, dans le faire. La connaissance, c'est dans l'action, dans le faire. L'exemple de Salomon, qui donnait dans ce que j'avais pu lire, c'est qu'effectivement, quand il est devenu roi, enfin, il allait devenir roi, Dieu est venu, il lui a demandé, voilà, qu'est-ce que tu veux? Et on sait que Salomon pouvait demander tout ce qu'il voulait, hein. Richesse, pouvoir, gloire. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé la sagesse. Mais il réclame, donc, ça veut dire qu'il réclame non pas d'avoir, mais de faire. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Il ne réclame pas d'avoir des sagesses, il ne réclame pas d'avoir du pouvoir, d'avoir la reconnaissance, d'avoir, hein, mais de faire, c'est-à-dire de conduire la nation d'Israël. Et pour ça, il avait besoin de la sagesse. Donc, pour conduire la nation d'Israël, il avait besoin de cette sagesse. Je ne sais pas si vous voyez la petite différence. Et du coup, il insistait sur le fait que voilà, cette sagesse, elle est concrète. Cette sagesse, elle se vit. C'est pas juste. D'ailleurs, enfin, beaucoup de ceux qui sont passés par la philo, il y en a qui aiment, hein, mais on n'aimait pas trop parce que voilà, c'est justement, on se posait des questions. Oui, non, mais pourquoi pas. Voilà, il y a quelque chose en nous, on a besoin. Alors, je dis pas que ça c'est mal, hein, c'est bien de réfléchir, mais on a aussi besoin de choses concrètes dans nos vies. Quand on est face à un problème concret, on ne veut pas juste toutes les possibilités qui pourraient exister, on veut qu'est-ce que je fais. Et c'est la sagesse aussi que Dieu nous propose, que Dieu nous offre. Donc si Salomon a eu cette sagesse qui était nécessaire pour conduire la nation d'Israël, et vous connaissez un peu tous l'histoire de la Bible, ce n'était pas un peuple facile à conduire, déjà je pense un peuple, ce n'est pas facile à conduire, mais la nation d'Israël, ce n'était pas simple. Et Dieu lui a donné cette sagesse. Et du coup, bah, moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, le livre des Proverbes. C'est parce que justement, il y a beaucoup de choses concrètes. Je crois que c'est quand je m'étais donné pour objectif, quand j'étais plus petite, de me dire, allez, je vais être sûre d'avoir lu toute la Bible. Il faut que je commence par un truc qui va m'aider, parce que si je commence par les Chroniques ou Lévitique, je vais vite arrêter, quoi. Je le lirai quand je serai lancée, quoi. Et du coup, bah, j'ai commencé par les Proverbes. Donc c'est vrai que les livres des Proverbes, pour moi, ça a une, je sais pas, ça. Petit truc dans mon cœur, une petite place. Je sais que je suis pas la seule à aimer les proverbes, hein, mais voilà, pour moi, je sais que ça a une signification particulière. Et je pense que c'est ce côté-là, effectivement, où il y a des choses, c'est court, c'est concret, c'est pertinent. Et voilà, ça reflète la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, du coup, qui n'est pas juste éthique, juste, bien pensante, mais qui est concrète dans la vie de tous les jours. Et donc, je vous encourage à lire les proverbes, surtout vous les jeunes, là. Hein, voilà, ça c'est dit. Mais ça se lit à toute époque de vie. De toute manière, la Bible, vous savez qu'elle est pertinente. Dans tous les livres qui sont écrits dans la Bible, pour chacune de nos vies, à chaque moment de nos vies. Dieu nous conduit parfois à lire certains passages, mais voilà, tout est pertinent. Et pour les proverbes, voilà, je voulais terminer avec deux proverbes. Le proverbe 1, versets 4 et 5, qui dit... Donc, il parle des proverbes. Ils sont là pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Je le relis pour le fun. Donc, les proverbes sont là pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc, là, voilà, on parle quand même de choses voilà, intellectuelles, de pouvoir se poser. Donc, vous voyez, on n'est pas contre, hein. C'est important. Et que le sage écoute. Écoutez. Ça veut dire arrêter de parler souvent. Voilà. Et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Et ce que Dieu voilà, nous propose de faire, c'est dans ce passage, c'est qu'il y a deux pas. Un, c'est d'écouter les gens sages. les gens qui sont remplis de sagesse. Mais alors là, encore une fois, alors c'est étonnant parce que parfois les gens qui ne sont pas chrétiens ont des conseils très avisés, sont très sages. Et je ne dis pas qu'il faut les dénigrer, c'est important, parfois les écouter, parfois aussi Dieu parle à travers eux. Mais c'est aussi très important que les personnes que vous écoutiez soient remplies de sagesse qui vient d'en haut. Et c'est important qu'à un moment donné, si vous écoutez quelqu'un à qui vous demandez conseil hein, et qui vous êtes dans une situation problématique, je pense que c'est important que ces personnes-là qui vous conseillent, si vous ne les entendez pas à un moment donné, vous référez à Dieu ou vous référez, enfin vous encouragez à aller lire un passage dans la Bible. Est-ce que c'est vraiment la sagesse qui vient d'en haut ? Ce que je veux dire, c'est que la sagesse qui vient d'en haut, elle est forcément connectée à Dieu à un moment donné. Encore une fois, je ne veux pas dénigrer les autres conseils, mais ce sont des sagesses, de la sagesse terrestre, qui est limitée et qui ne va pas pouvoir répondre à toutes vos attentes et tous vos besoins dans votre là où vous en êtes. Et donc voilà, les personnes que vous écoutez, est-ce qu'elles ont la sagesse qui vient d'en haut ? Alors, encore une fois, personne n'est parfait. Il y a des moments, ce sera une personne qui vous donnera un conseil de sagesse qui vient d'en haut, et puis des fois, vous allez la voir et dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui est fait ?» Quand je pense que je l'ai écouté. Oui, mais encore une fois, Dieu est plein de grâce, et soyons-le aussi. On n'est pas parfait, on fera toujours des erreurs, mais voilà, Dieu peut parler à travers chacun d'entre nous. Et il faut savoir écouter ces moments-là, quand Dieu parle de manière pertinente à travers quelqu'un, peu importe si sa vie soit parfaite ou pas, vous savez très bien qu'elle ne le sera pas. Mais voilà, c'est juste un repère pour vous, pour nous, de se dire, voilà, les conseils remplis de sagesse qui viennent d'en haut. Est-ce que, voilà, la personne va... Alors, je ne dis pas forcément, ça ne va pas être non plus une récitation de versets bibliques qui va vous taper dessus, bon, ça n'a pas non plus de sens. Mais voilà, est-ce que vous allez sentir, je pense, dans votre cœur, un peu comme les disciples d'Emmaüs, leur cœur brûlait quand Jésus leur parlait. Et je pense que quand vous entendez quelque chose, un conseil qui vient d'en haut, vous le sentez aussi. Donc, faites confiance aussi. Enfin, demandez à Dieu de vous donner du discernement et croyez qu'il vous le donne. Parce que écouter les gens qui sont remplis de sagesse, c'est quelque chose qui nous aide. Et comme il est dit, ça augmente son savoir et ça nous donne de l'habilité. Et la deuxième chose, c'est rechercher celui qui est saint. Alors c'est vrai, en anglais, ils disent « the holy one ». Ça parle un peu plus. Celui qui est saint. Et c'est pareil... Il dit là que c'est ce terme-là, en tout cas en anglais, hein, désolé pour l'anglais, mais Holy One, c'est mentionné 57, c'est 57 fois dans la Bible. Je tombe pas. Et en fait, il en revient à dire que Holy One, celui qui est saint, il fait référence à Jésus. Et voilà, la boucle est bouclée. Christ au centre. Faisons confiance à Jésus. Donc, on écoute les gens qui sont remplis de sagesse humainement, enfin, qui sont humains, qui sont remplis de la sagesse d'en haut, mais surtout, on recherche celui qui est saint, c'est-à-dire celui qui est le Fils de Dieu, Jésus. Lui qui est la sagesse, lui qui a toutes les solutions, la force dont vous avez besoin. Parce que parfois, on n'a pas une solution qui va régler le problème, mais on va avoir la force qui va nous permettre de traverser le problème. Et c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, ce proverbe 1, 4, 5 qu'on a lu, nous encourage à cela, à écouter les gens qui ont une sagesse qui vient d'en haut, mais surtout chercher celui qui est saint, Jésus. Et du coup, on remet Christ au centre, et celui qui nous guide, et celui qui nous conduit. Celui qui nous donne l'amour dont on a besoin pour cette rentrée, cette année qui recommence. C'est vrai que Dieu fonctionne de manière linéaire, on le voit sur tous les petits schémas, là. Mais nous, on a un peu tendance à être en cercle. Et on se dit, voilà, les saisons qui reviennent, la rentrée, chaque année, ça revient. Voilà, on fonctionne comme ça, il faut l'accepter. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on a celui qui est au-dessus de tout ça et qui nous donne tout ce dont on a besoin. Et je voulais terminer avec Proverbe 9, verset 10, qui nous dit... Et c'est ça. 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Comment qu'on lit le livre de La crainte de l'Éternel de John Bevere. J'aime beaucoup, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. Et voilà, juste petite parenthèse encore une fois, la crainte de Dieu, c'est pas la peur, j'ai peur que Dieu me tape dessus. Mais c'est la crainte de celui qui est le créateur de l'univers, qui est saint, qui est parfait. Que quand je fais quelque chose, Je sais que ça aura des conséquences. Je sais que ça peut faire du mal au cœur de Dieu, que ça peut attrister le Saint-Esprit. Et que du coup, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on est libre, du coup. On a beau être esclave, on est libre en Christ. Et je suis libre de tout faire parce que la grâce est là, mais je ne suis pas libre de tout faire, de faire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai plein de choses, bien sûr, qui sont présentes, mais n'oublions pas cette crainte de Dieu, cette crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, qui nous permet, du coup, d'avoir de sages décisions et des solutions à nos problèmes quotidiens et concrets. Et qui nous donne l'amour de Dieu. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça pour cette rentrée. J'espère que ça a pu vous parler, vous encourager. Parce que voilà, on a besoin de ça dans nos vies, dans lesquelles on, enfin les vies qu'on vit, dans notre quotidien, dans le monde dans lequel on vit. On a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de cette sagesse. On a besoin d'être renouvelé dans notre esprit par lui. Donc voilà, je vais prier. Si jamais il y en a qui veulent plus particulièrement recevoir, je vous invite à vous lever, ceux qui veulent être voilà remplis de cette sagesse. Je vais prier pour chacun d'entre nous qu'on puisse vraiment être bénis. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour qui dépasse notre compréhension, notre intelligence, mais pourtant qui est là, qui est bien concret. Pour cette sagesse que tu nous offres, qui dépasse notre entendement. Merci parce que tu te proposes d'être là à chaque instant de nos vies. Et je veux te prier pour chacun des membres de cette église, tous ceux qui sont là debout, qui veulent recevoir, Seigneur, plus de toi en eux, Seigneur, plus de ta présence, de ton esprit. Je prie pour que tu puisses venir et que tu nous remplisses, Seigneur, chacun, pour marcher selon ta volonté, pour apprendre chaque jour, réapprendre à mourir à soi-même, à abandonner notre propre volonté, à abandonner nos désirs, et à vraiment être à tes pieds. Ah, Seigneur, chercher qui tu es, à te mettre vraiment au centre de tout, Seigneur, que nous puissions avoir cette intelligence qui soit renouvelée, que nous puissions comprendre, Seigneur, plus de qui tu es. Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement immense, Seigneur, on n'aura jamais fait le tour, mais Seigneur, que chaque jour nous puissions te connaître un peu plus, que nous puissions marcher aussi pour devenir tes amis, Seigneur. Je sais que nous avons du chemin, Seigneur, mais nous voulons vraiment aller dans cette direction. Je prie vraiment pour que ton esprit nous encourage, que nous soyons réceptifs, Seigneur, que nous soyons renouvelés. Je te prie pour tous ceux qui ont une semaine difficile, que ce soit au niveau de la rentrée du travail, de familial, santé, Seigneur. Je prie pour que tu puisses pourvoir, Seigneur, à ceux qui ont besoin de toi maintenant, Seigneur. Parce que tu te soucies de chacun d'entre nous, Seigneur. Ton amour est tellement grand, tellement large, tellement haut. Seigneur, qu'une seule goutte, déjà, nous fait tellement de bien, Seigneur. Mais toi, tu veux nous donner plus, alors que nous puissions avoir nos cœurs ouverts. Que, Seigneur, s'il y a de la colère, de la tristesse, que tu puisses rencontrer ceux qui vivent ces choses-là, Seigneur, en ce moment. Toi qui connais si parfaitement chacun d'entre nous. Viens, Seigneur, je t'en prie par ton esprit. Console, relève, rassure. Seigneur, que aussi nous puissions avoir les uns pour les autres des paroles d'encouragement, Seigneur. Mais je sais aussi que toi, tu te soucies de chacun de nous. Seigneur, je prie pour aussi tous les enfants qui ont fait leur rentrée. Je te prie pour que, voilà, que ce soit avec les profs ou les amis, que tout puisse bien se passer cette année. Que, Seigneur, s'il y a des soucis, qu'ils soient déjà réglés. Seigneur, je te prie pour les parents qui commencent à rentrer. C'est des sacrés emplois du temps qu'ils ont. Que tu leur donnes la paix, la sagesse de savoir gérer tous ces problèmes qui viennent à eux, Seigneur. Vraiment, je te remercie, parce que je sais que chacune des personnes ici est précieuse pour toi. Et je te prie que tu les remplisses, Seigneur, d'amour, de paix, de joie, Seigneur, et que par-dessus tout, ce soit l'amour, Seigneur, qui règne dans leur vie. Cet amour qui vient de toi. Cet amour qui est si puissant, si grand. Je veux vraiment les bénir chacun, au nom de Jésus. Amen.